Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Livre et Mam. Je m'appelle Vanilla Borde, je suis doctorante en sciences politiques au laboratoire Mésopolis et pour le dire très rapidement, je travaille sur les politiques de laïcité dans l'éducation nationale depuis 2015, dans une approche multiniveau où je tente de voir comment on s'empare et on se réapproprie à l'échelle locale une politique ministérielle. Donc pour vous présenter un peu le cadre de notre rencontre d'aujourd'hui, Livre et Mam est un cycle d'entretien organisé par l'IREMAM, c'est-à-dire l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans basé à Aix-en-Provence. Et ces entretiens sont réalisés avec des auteurs et des autrices d'ouvrages académiques récents. Et notre invitée aujourd'hui est Françoise Lorcery. Donc bonjour Françoise Lorcery et merci d'être parmi nous.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche émérite en sciences politiques au CNRS. Vous travaillez sur les politiques scolaires dites d'intégration des populations d'origine maghrébine en France. Vous avez publié des ouvrages sur les processus d'ethnicisation à l'école. Et vos travaux récents portent en particulier sur les débats autour de la laïcité et de l'islam, mais aussi sur la prise en compte de ces enjeux en formation des enseignants. Vous connaissez très bien l'institution scolaire dans laquelle vous avez fait beaucoup de terrain. Et d'ailleurs, c'est sur le terrain d'enquête que je fais pour ma thèse, en particulier au rectorat d'Aix-Marseille, que je vous ai rencontré la première fois, même si j'avais eu l'occasion de vous lire. Et je crois que cette très bonne connaissance du terrain, c'est un point important à noter dans votre profil de chercheuse. Alors, si on vous accueille aujourd'hui, c'est parce que vous avez dirigé un livre intitulé « Éducation et diversité, les fondamentaux de l'action ». Publié aux presses universitaires de Rennes dans la collection Res Publica et qui est sorti tout récemment, fin janvier 2021. C'est lors de la première rencontre du RIED que l'idée de cette publication collective a vu le jour. Le RIED, c'est le Réseau international éducation et diversité, un réseau que vous avez cofondé en 2013 dans le but de rassembler des chercheurs de plusieurs pays, de croiser les points de vue et de dynamiser la recherche académique malheureusement encore trop peu courante sur la diversité ethnoculturelle et sa prise en charge par les institutions éducatives, l'école mais pas que. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à consulter le site web du RIED pour en savoir plus sur ce réseau qui ouvre un espace de discussion très intéressant sur la thématique qui va nous occuper aujourd'hui. Donc, le livre que vous nous présentez aujourd'hui, c'est en partie le fruit de vos discussions. Il s'agit donc d'un ouvrage collectif qui rassemble les contributions de plus de 30 autrices et auteurs. Et ce qui en fait un volume très riche, aussi bien parce qu'il s'intéresse à différents contextes nationaux, à savoir la Suisse romande, la France, la Belgique francophone, le Canada avec le cas du Québec. Et très riche également parce qu'il témoigne d'une grande diversité d'approches empiriques et méthodologiques. Il mêle études quantitatives et qualitatives avec des chercheurs qui ont travaillé à partir de matériaux d'enquête très diversifiés. Et diversité d'ancrage disciplinaire des auteurs, de la sociologie aux sciences du langage en passant par la science politique, l'anthropologie, la psychologie sociale, les sciences de l'éducation, l'ethnologie, la didactique, etc. Et cette grande diversité d'approches et de questionnements développés par les contributeurs, ça donne au lecteur une palette plus large de compréhension des différents processus sociaux qui vont impacter la manière dont se vit la diversité en contexte éducatif. Et l'ouvrage participe, selon moi, à combler un relatif manque existant dans la littérature sur l'éducation et sur la diversité, en ce sens qu'il donne à voir la manière dont les protagonistes de la relation pédagogique, les enseignants, les élèves, mais aussi leurs parents, créent de la catégorisation ethnique, sont affectés par celle-ci et la manière dont ils la gèrent. Donc, tout d'abord, je voulais revenir avec vous sur le titre de l'ouvrage, « Éducation et diversité, les fondamentaux de l'action ». Ce titre, il laisse entendre que l'ouvrage se veut utile à des professionnels du système éducatif. Donc finalement, à qui est-ce qu'il s'adresse, ce livre ?
Alors, typiquement, le livre s'adresse aux acteurs du système scolaire et en particulier aux universitaires qui sont chargés de former les futurs enseignants. Donc, les formateurs d'enseignants qui sont des universitaires en France, même s'ils se travaillent dans un cadre plus contrôlé par l'État, par le ministère actuellement, que ce n'est le cas pour des universitaires en temps normal. Donc plus largement, ça s'adresse évidemment plus largement à tout le monde, tous les gens qui sont intéressés par comprendre un peu mieux comment fonctionne le système scolaire et en tant que c'est un système, un cadre institutionnel tout de même très important dans notre vie collective, même si il est assez mal connu somme toute, il est toujours débordé, cadré idéologiquement très fort dans le débat public et finalement les connaissances empiriques complexifiées à propos de ce système sont rares. Donc le livre prétend travailler à cette dimension-là, améliorer la connaissance réelle de ce qui se passe dans le système à propos de la diversité. Alors la diversité, on l'a définie de façon très simple comme une façon de désigner les élèves immigrés et issus de l'immigration en posant la question de qu'est-ce qui se passe pour eux à l'école, en quoi ça change l'école que d'avoir des enfants d'immigrés, en particulier d'immigrés post-coloniaux liés au flux migratoire venant de l'Afrique, anciennement de l'Empire français ou des colonies françaises en particulier. Ça fait quand même du monde, hein, au total. Déjà l'école en tant que telle, c'est quelque chose qui touche à peu près le tiers, voire plus du tiers du pays, puisqu'il y a 12 millions d'écoliers, à peu près autant de parents, 866 000, j'ai vérifié les chiffres hier, 866 000 enseignants, ça fait du monde, ça fait plus du tiers du pays. Et quant aux enfants d'immigrés, pour l'instant dans la population globale, on compte à peu près 10% d'immigrés et issus de l'immigration. Et pour ce qui concerne les enfants à l'école, ça fait au moins autant, puisque c'est une population relativement plus jeune que la moyenne, donc un peu plus en fait. Donc, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que, du point de vue de la diversité des analyses que propose le livre, c'est que être enfant d'immigré à l'école française, on pourrait dire, c'est être un élève, tout simplement un élève français, comme disait Sayad dans un de ses articles. Les enfants d'immigrés sont des élèves français. Oui, ils sont des élèves français, mais ils activent dans les représentations des agents et des élèves eux-mêmes, des idées de démarcation entre ici versus pas d'ici, national versus étranger, même quand on a la nationalité française, nous versus eux, ceci sur une base ethnique, sur une base d'origine ou sur une base culturelle, voire sur une base ethno-raciale. Par conséquent, il y a lieu d'essayer de réfléchir à la façon dont vont s'appliquer dans l'école des catégories, des cadres théoriques qui ont été développés dans la sociologie française et un peu plus tardivement dans la sociologie américaine. Je pense en particulier à la façon dont Norbert Elias conceptualise la notion de configuration entre established et outsiders, entre les établis et les intrus. C'est difficile à traduire, hein. Established, établi, on peut le comprendre. Outsiders, c'est difficile à traduire, mettons intrus. En tout cas, des gens pas d'ici. Cette configuration established outsiders, Norbert Elias l'a mise en évidence et l'a proposée à partir d'une observation faite dans une petite ville anglaise où il n'était pas question de différence ethnique, mais on peut tout à fait l'interpréter à l'aide des théories des relations ethniques qui ont été fondées en Europe par Weber, Max Weber. Et en particulier, cette idée que l'ethnicité ne repose pas sur un concept d'ethnie, pas plus que de race. L'ethnie, dit Weber, c'est un fourre-tout inutilisable, mais de relations ethniques, c'est-à-dire des pôles relationnels en société réunis par l'activité sociale. Ces pôles relationnels, donc eux versus nous, nous versus eux, nous qui posons les normes en fait, versus eux, ces pôles relationnels sont associés non seulement à des positions statutaires différentes, mais aussi à des attributions de valeurs différentes et à des relations affectives plus ou moins difficiles. Donc, jugement de valeur bon versus mauvais, normal versus difficile, jugement de valeur aussi sur la beauté et la laideur, et parfois affect de difficultés, de souffrance, voire de haine. Donc, cette conceptualisation de la configuration established outsiders appliquée aux relations ethniques nous amène à penser qu'il y a dans l'école, même si juridiquement ce n'est pas le cas, des individus qui peuvent être ou qui sont à l'ordinaire de la relation minorisée. C'est-à-dire qu'ils sont minoritaires au sens d'être dans l'activité sociale, minorisés, attribués à une position inférieure et du coup exposés à des désavantages variés. Parmi les désavantages qui sont maintenant bien identifiés, il y a l'idée de discrimination, il y a l'idée de ne pas recevoir la plénitude d'un service auquel on pourrait s'attendre. On reviendra tout à l'heure un peu plus sur les détails de ce que ça peut signifier à l'école. Et il y a aussi une idée de ségrégation, c'est-à-dire de mise à distance. On s'éloigne, on creuse les distances physiques, les distances géographiques entre nous et eux. Et ça aussi, ça va se vérifier, on le dira tout à l'heure, dans notre école en France. Il peut y avoir également, mais c'est plus rare dans le domaine scolaire, une construction idéologique de la différence en tant que différence méprisée, et on touche là au racisme. Bref, le mot commun, diversité, que nous avons utilisé, nous l'avons utilisé parce qu'il est à peu près compris et accepté actuellement dans les quatre pays qui sont les bases du livre, et en particulier en France. Il faut dire que ce n'est pas vieux, ça ne fait pas longtemps qu'on accepte de regarder la pluralité interne, la pluralité des statuts qui résultent dans la société française des phénomènes migratoires. Ça ne fait pas longtemps qu'on accepte de les dénommer, c'est très précisément depuis 2005, que le mot est arrivé dans le vocabulaire politique. Il existait auparavant, évidemment, il n'a pas attendu cette date pour exister, mais l'acception politique qu'il prend date de 2005. Il faut rappeler qu'il y a eu des luttes auparavant dans l'espace français pour faire accéder à un discours politique le phénomène de l'existence des immigrés dans la France contemporaine. La catégorie d'immigrés, le mot immigré, non pas travailleur migrant ou travailleur immigrant, comme on disait par là avant, le mot immigré est accepté dans le vocabulaire politique depuis les années 90 seulement. Il impliquait sa reconnaissance dans le vocabulaire politique, son acceptation impliquait de modifier la statistique publique sur ces questions-là pour identifier la situation de ces personnes dans la société française, les modalités de leur intégration, éventuellement les discriminations qu'ils subissaient. Effectivement, les travaux statistiques des années 90 montrent l'existence de discriminations devant le travail en particulier. Et c'est ce qui fait qu'en 1998, on a la première occurrence public dans un discours politique du mot discrimination, dans un discours de Martine Aubry, associé à l'idée qu'il faut reconvertir la politique d'intégration des immigrés en termes de lutte contre les discriminations, et en particulier on pense alors à la sphère du travail. Et l'arrivée de diversité en 2005 va être accusée d'être une façon de mettre au deuxième plan la lutte contre les discriminations, précisément. On allait parler de diversité et sous couleur de donner un côté positif à la pluralité sociétale, d'en parler de façon non négative dans les mots, on allait finalement oublier la lutte contre les discriminations. C'est un peu ce qui s'est passé effectivement, mais en même temps, il faut bien reconnaître que diversité permet quand même de parler d'une façon plus positive de la réalité plurielle de notre société. En bref, c'est un mot crypto-politique, c'est une catégorie quasi-politique qui cache tout en dénommant, qui ne permet pas vraiment de légitimer des mobilisations, parce qu'à chaque fois qu'on voit les immigrés se réunir pour défendre tel ou tel droit ou demander tel ou tel droit, on s'aperçoit que ces luttes sont décriées et qu'elles trouvent très peu grâce dans la sphère publique et dans la sphère médiatique. Mais néanmoins, ce mot caractérise, donne une certaine place dans le discours public à la pluralité sociétale, entendue au sens ethno-racial, reconnaît en quelque sorte une dimension transnationale irréductible dans notre pays. Elle corrige, je dirais, l'unitarisme nationaliste auquel l'idéologie républicaine souscrit assez souvent. Il faut remarquer que les gens concernés, les immigrés, donc les descendants de migrants, s'en sont emparés. Et on entend à la télévision parfois des gens qui disent « moi qui suis issu de la diversité ». C'est d'une façon plus positive de parler de soi comme outsider finalement que l'idée de dire « je suis issu de l'immigration, j'ai des ancêtres immigrés ». Bref, le titre du livre peut donc être compris comme cela. Le mot est en usage dans les démocraties développées du monde francophone et dans nos quatre pays, c'est le cas, pour désigner donc de façon euphémique cette configuration « established outsiders » générée par l'arrivée dans les espaces nationaux de nouveaux venus apportés par les flux migratoires et appelant de l'action publique, puisqu'on reconnaît qu'ils sont là et qu'ils génèrent de la séparation, de la différenciation, en particulier la lutte contre les discriminations, mais aussi une politique plus proactive d'intégration qu'on appelle parfois inclusion, c'est un sens plus précis dont on pourra parler éventuellement dans la discussion, et d'autres catégories qui désignent la gestion de la diversité comme tolérance, reconnaissance, respect, etc. Voilà.
Merci beaucoup Françoise, on voit toute l'ambivalence et l'ambiguïté de l'usage de ce terme diversité et on comprend bien qu'il renvoie à plusieurs problèmes qu'on attend de l'institution scolaire qu'elle les gère, qu'elle a souvent du mal à gérer, voire même qu'elle participe à créer. L'école ne reproduit pas seulement les inégalités existantes dans la société, mais elle participe parfois à les créer par ses fonctionnements propres. Et vous avez évoqué la question de la ségrégation qui est étudiée dans le livre, notamment dans le chapitre de Perrine Dev-Lissauer et Julien Danier, à partir du cas belge. Et il me semble que c'en est l'exemple typique. Est-ce que la ségrégation scolaire reflète la ségrégation urbaine ou bien est-ce qu'elle est endogène au système scolaire ?
La ségrégation ethnique, c'est effectivement un des grands phénomènes sociaux par lequel se manifestent les relations ethniques, j'en disais un mot tout à l'heure. Elle accentue ou infléchit la ségrégation simplement sociale, c'est-à-dire celle qui existe entre les riches et les pauvres, entre les favorisés et les défavorisés, on sait qu'elle est forte en France, mais avec une certaine autonomie. Et ça, sur le global, on a les travaux d'Edmond Pretzel qui montrent comment la ségrégation ethnique aggrave la ségrégation sociale dans la région parisienne avec une relative autonomie. Or, qu'est-ce qu'il en est à l'école ? On n'a pas beaucoup étudié la question, mais il se trouve qu'une des premières études disponibles sur cette question, sur la question de la gestion de la diversité à l'école, justement, posait la question de la ségrégation. C'était l'étude de Maryse Tripier et Alain Léger, qui s'intitulait « Fuir ou construire l'école populaire », et elle date de 1986. C'est-à-dire vraiment le début des études s'intéressant à la présence de la diversité dans l'école. Il travaillait sur deux écoles d'un quartier très populaire de Gennevilliers et avait montré comment les nouveaux immigrés présents dans le quartier étaient distribués différemment dans les écoles et comment des familles populaires, y compris d'ailleurs déjà certaines familles immigrées, fuyaient les écoles, donc mettant l'accent sur le phénomène de l'évitement scolaire, fuir l'école populaire, phénomène qui est depuis beaucoup plus étudié. Et il montrait que précisément, comme vous le dites, le pourcentage d'élèves issus d'immigrés, à l'époque, ce n'était pas des élèves issus de l'immigration, mais des élèves vraiment qui venaient d'immigrer avec leur famille, étaient plus forts dans les écoles que dans le quartier. Pour la bonne raison, justement, que des familles qui étaient là dans le quartier avant l'arrivée des immigrés fuyaient. C'est-à-dire que la distance entre les catégories socio-ethniques présentes dans le quartier était plus forte à l'école que dans le quartier. Et elle était générée donc à l'école par une certaine mesure. Dans une certaine mesure, elle était générée par l'action scolaire elle-même des écoles, sans doute, puisque la situation n'était pas la même dans les deux écoles. Il y a une école qui était plus évitée que l'autre, alors qu'elles avaient, du point de vue socio-ethnique, le même statut, la même coloration, je dirais. Mais plus généralement, c'est bien évidemment le contexte aussi qui fait les différences et qui encourage les fuites, avec le fait que l'importance de l'école aux yeux des parents, puisque tout le monde sait que l'école est l'instrument de la mobilité sociale, que réussir sa vie, ça passe par la réussite scolaire, s'en sortir, comme disent les gens des milieux populaires, ça, c'est conditionné par la réussite scolaire. Et du coup, il y a un investissement intense de la réussite scolaire, et les gens sont sensibles au phénomène des réputations inégales des établissements et des écoles. Et du coup, des phénomènes de fuite qui dégrade l'offre scolaire objectivement dans des quartiers, indépendamment même de l'action scolaire qui peut se faire dans ces établissements-là. C'est-à-dire qu'il y a une interaction complexe des facteurs qui finissent en cercle vicieux à dégrader considérablement le contexte scolaire et l'efficacité de l'école. Donc, importance de l'agir scolaire sur ces phénomènes de ségrégation, mais aussi importance de facteurs plus globaux, plus complexes, composites, qui se mêlent, qui s'entremêlent les uns avec les autres. Ces phénomènes n'ont pas été beaucoup étudiés en France encore aujourd'hui, et pourtant on dispose d'une source de données remarquable, qui sont les enquêtes PISA, qui ont lieu dans l'OCDE tous les 3 ans, alternativement sur les domaines des mathématiques, de la lecture-écriture et des sciences. Et elle mesure les acquis scolaires, les acquis en termes de compétences des élèves de 15 ans dans une quarantaine de pays, avec en récupérant un luxe de données explicatives, de variables explicatives, de toutes sortes, des variables scolaires, des variables sociales, de toutes sortes. Les relations avec les enseignants, l'implication des parents, l'équipement des familles, enfin, énormément de variables explicatives qui peuvent être donc traitées et sur des grands nombres et qui donnent des résultats très, très fiables, en fait, très significatifs. Le malheur, c'est qu'en France, le ministère s'oppose à la publication des données sur les établissements même. Ce qui fait qu'on n'est pas en état de publier. Je pense que ceux qui ont accès directement aux bases de données peuvent savoir les choses, mais on ne peut pas publier directement des données relatives à la ségrégation entre les établissements, la ségrégation inter-établissements et la ségrégation à l'intérieur des établissements. La connaissance française, du coup, sur cette question est limitée et elle est plutôt indirecte. Et à ce titre-là, il faut regarder dans le livre le chapitre signé de Jean-Luc Primon, qui est le spécialiste de cette question et qui récapitule l'ensemble des données dont on dispose sur la réussite scolaire des enfants d'immigrés issus de l'immigration pour la France. Et il dégage un résultat qui est intéressant pour la France, qui n'est pas banal, qui n'est pas trivial, c'est que les parcours scolaires des élèves issus d'immigration sont analogues à ceux des élèves de milieux populaires, de même milieu qu'eux, et ils sont marqués par la difficulté. En France, l'origine sociale fait beaucoup de différence dans la réussite scolaire, du moins vu des parcours scolaires, comme la probabilité d'avoir le bac, la probabilité d'avoir une orientation en lycée professionnel. Mais de plus, lorsqu'on regarde les compétences acquises à 15 ans par PISA, on voit que cette différence des parcours, selon l'origine sociale, se double d'une différence selon l'origine ethnique ou culturelle en termes de niveau d'acquis, et d'une différence en termes de niveau d'acquis particulièrement marquée en France, avec une dégradation des niveaux d'acquis pour les élèves issus de l'immigration particulièrement marquée et alarmante en France. Ce qui fait que on dit parfois que la scolarisation des enfants d'immigrés n'est pas marquée en France, qu'ils ont les mêmes parcours. Et c'est en partie vrai, ils ont les mêmes parcours que leurs pères, qui sont des parcours marqués par la difficulté sociale, mais en plus, il faut ajouter une différence de niveau d'acquis. Alors, comment expliquer cette différence de niveau d'acquis quand les parcours sont les mêmes? Par les dégradations des contextes d'apprentissage, forcément. C'est-à-dire par le fait que, d'une part, l'affaiblissement de la sélectivité des passages de classe et des examens fait que les parcours se sont lissés dans une certaine mesure, mais la différenciation de la qualité de l'offre scolaire selon les établissements est marquée. Et il y a le phénomène des établissements ghettoisés ou plus ou moins ghettoisés où les conditions d'apprentissage sont franchement dégradées. Et c'est-à-dire qu'il y a une combinaison de la ségrégation ethnique et de la ségrégation sociale au sein du système qui produit des disparités très sensibles de niveau d'acquis à 15 ans. Alors, la Belgique, et c'est pour ça que Vanille citait les deux chapitres écrits par des sociologues belges, la Belgique, elle, s'est donné les moyens d'étudier ces phénomènes assez bien parce que depuis une loi de 1959 en Belgique francophone, l'école est organisée en réseau également financé par l'État. Il y a le réseau officiel des communautés, dirigé par les communautés, donc la communauté francophone, d'une part, il y a le réseau officiel des communales, et puis il y a le réseau libre. Et ces trois réseaux sont financés par l'État. Ce qui fait qu'on a en Belgique un phénomène qu'on appelle de quasi-marché scolaire, avec une forte concurrence entre les établissements scolaires. Et évidemment, ce phénomène a très vite retenu l'attention des chercheurs qui se sont intéressés à la distribution des catégories sociales et des catégories ethniques, parce qu'il y a moins de résistance en Belgique à étudier cette dimension-là de l'inégalité sociale. Donc, selon les établissements, ils commencent à évoluer selon les décisions politiques en fonction de ce que faisaient les établissements, etc. Donc, il y a des thèses, il y a des travaux académiques là-dessus. Et les deux chapitres du livre écrits par Perrine de Vesouvert, Julien Danier d'une part et par Marie Verhoeven et Farah Dubois-Cheikh d'autre part, décortiquent ce phénomène de la ségrégation ethnique et sociale dans le système scolaire belge, et d'une façon telle que c'est inspirant pour la France aussi. C'est pourquoi ces chapitres sociologiques nous donnent des idées, des concepts que l'on peut mettre en œuvre et des questions qui peuvent se poser sur le processus cognitif des familles, des agents scolaires, sur les caractéristiques objectives des établissements en question, etc. etc.
Merci. Et j'imagine que ce phénomène de ségrégation n'est pas sans lien avec un sentiment de discrimination qui peut naître chez certains élèves. Et dans le livre, plusieurs auteurs s'y sont intéressés, ont montré à travers notamment des exemples très concrets des parcours de vie, les conséquences de ce sentiment de discrimination sur l'identification des élèves. Je pense notamment à Audrey Hayne et Laurent Licata qui, dans une approche que je qualifierais d'intersectionnelle, analysent la relation entre trois variables, le sentiment de discrimination d'élèves liés à leurs origines, le genre et les processus d'identification à certains groupes culturels. Et vous mettez ce sentiment de discrimination en lien avec ce que vous appelez « misrecognition ». Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement aux auditeurs ce que vous entendez par « misrecognition » ?
Oui, je commencerai par bien souligner que notre approche de l'identité est une approche de sciences sociales, c'est-à-dire pas fixiste, pas essentialiste, et qui observe ce que l'interaction sociale fait aux identifications des individus et comment les identités se construisent et évoluent, sont fluides et flexibles par conséquent selon les situations, selon le genre, selon l'appartenance de classe, l'approche intersectionnelle dont vient de parler Vanille, mais aussi à l'école selon la réussite scolaire. Et ça, c'est un des acquis des premières thèses sur la question, et la seule sur cet angle-là, celle de Marie Verhoeven, qui date des débuts des années 2000, où elle montre comment les revendications d'appartenance identitaire ne sont pas les mêmes selon que l'établissement, au niveau d'un collège, selon que l'établissement est bien situé dans la hiérarchie concurrentielle des établissements, ou mal situé, selon que l'élève est en réussite ou pas. C'est-à-dire que, et ça correspond à d'autres, c'est corroboré par d'autres observations, sur le fait que l'échec scolaire accentue le déficit statutaire de l'élève et donc le besoin qu'il a d'avoir une autre forme de reconnaissance. Et c'est ce phénomène de la misrecognition dont on va parler tout de suite. Donc, mais en tout cas, ne pas rabattre identité, comme on l'entend si souvent dans le débat public, sur identitarisme. Il ne s'agit pas du tout d'exalter les identités, il ne s'agit pas du tout de penser que l'identité est un déjà-là qui déterminerait l'action des individus. Ce n'est pas du tout ça pour nous. Donc, une définition de l'identité en sciences sociales dans mes premiers travaux, j'avais utilisé celle de Pierre Tappe, qui dit « L'identité ne se vit que dans la prise et ne se saisit que dans la crise ». C'est-à-dire que c'est une identité qui est construite socialement en contexte et notamment en contexte d'adversité. Il faut aussi se référer aux travaux d'Amin Malouf, au très beau livre d'Amin Malouf qui s'appelle « Les identités meurtrières », qui n'est pas un livre de psychologie sociale, mais qui est extrêmement riche en données qui sont interprétables par la psychologie sociale. Et pour ma part, dans ce livre, j'utilise la tripartition de Brubaker et Cooper dans Beyond Identity, au-delà de l'identité, où il montre que trois dimensions lui paraissent pertinentes lorsqu'on analyse, lorsqu'on cherche à analyser les phénomènes identitaires. D'une part, l'auto-identification, la construction par l'individu de sa propre identité, ce qu'il en dit, ce qu'il se ressent être et ce qu'il affiche éventuellement de lui. D'autre part, l'hétéro-identification, et c'est quelque chose de très très important dans la dialectique majoritaire-minoritaire, hein, l'hétéro-identification, c'est-à-dire l'attribution d'identité par autrui, et quand c'est autrui majoritaire qui attribue l'identité au minoritaire, il y a là un phénomène souvent lié à la stigmatisation et à l'infériorisation qui génère beaucoup de malaise chez les individus concernés. Et puis enfin, les liens sociaux tissés, les sociabilités entretenues qui font l'individu dans son histoire. Et ça, je crois que c'est très important d'avoir en tête cette vision théorique complexe des phénomènes identitaires, pour ne pas dire de bêtises, et pour essayer de les cerner dans leur impact au quotidien dans les écoles. Alors, il y a effectivement dans le livre plusieurs chapitre, j'en vois trois qui traitent de ces dynamiques identitaires. Je pense au chapitre de Haute Kerivel, qui est chargé de recherche à l'INJEP, sur la façon dont les stagiaires de centres de vacances mobilisent l'islam, mettent en avant leur religiosité musulmane dans certains contextes et la relativisent ou la font baisser dans d'autres contextes. Alors je laisse les auditeurs regarder le livre pour voir un peu comment ça se passe, mais c'est assez intéressant, effectivement, selon la façon dont les animateurs ajustent leur conduite. On voit les jeunes qui oublient qu'ils ont fait valoir des demandes de temps de prière et qui vont se joindre aux activités collectives sans plus de problèmes. Autre chapitre intéressant dans le livre sur cette question, le chapitre signé de Marwan Mohamed, qui est chargé de recherche au CNRS, on le connaît bien, c'est un spécialiste des bandes de jeunes et des questions de racialisation des jeunes dans les quartiers. Là, il analyse les usages de la race dans un collège périphérique en montrant l'extrême complexité des usages de la race de la part des jeunes, de la part des familles, de la part des agents scolaires, un petit peu moins, mais montre comment il y a une lecture raciale des tensions avec l'institution. Et par rapport à, lorsqu'on se situe du côté des jeunes, des usages reliants de la race et des usages déliants de la race en relation avec la segmentation sociale. Là aussi, je n'en dis pas plus, mais c'est un chapitre vraiment passionnant. Et puis le chapitre de Pierre Perrier sur les parents, où il montre comment les parents immigrés ou issus de l'immigration, loin d'être déterminés eux aussi par leurs identités, sont au contraire très soucieux de la réussite de leurs enfants, pas du tout soucieux de la rupture avec l'école, mais ils ont peur en fait de fréquenter l'école, ils sont soucieux de faire ce qu'elle attend, mais ils se savent insuffisants par rapport aux demandes de l'école, et ils ont toute une série de tactiques, on peut même pas parler de stratégie à ce niveau-là, ce sont des tactiques pour essayer de protéger leur face en fait. Alors le concept de misrecognition que j'avance dans les chapitres que je rédige, c'est un chapitre qui est tiré de la problématique de Axel Honneth sur sa théorie de la reconnaissance, à quoi il a consacré sa thèse et qu'il a depuis réélaborée. La théorie de la reconnaissance selon Honneth n'a rien à voir avec la culture des individus. Il ne faut pas confondre la théorie de Honneth avec celle, par exemple, du multiculturalisme chez Michael Taylor ou d'autres penseurs québécois. La théorie de Honneth, c'est une théorie qui dit que tout être humain, en fait, a besoin de reconnaissance. Et tout être humain construit, devient un pleinement membre d'une société en étant assuré d'une reconnaissance, au niveau affectif, ça se passe souvent en famille, une reconnaissance juridique et une reconnaissance de considération sociale. On retrouve là d'ailleurs des réflexions que fait Rawls de son côté, hein, dans la théorie politique de la justice libérale. Il y a une condition que Rawls place dans les conditions de base de la justice des institutions, qui est assurer à chacun le respect de soi-même. C'est cela dont il s'agit avec la théorie de Honneth sur la reconnaissance. Or, ce qui me paraît intéressant pour l'école et pour comprendre ce qui se passe dans l'école du point de vue de l'insertion de la diversité, si je peux dire, avec les guillemets, c'est justement les blessures de la reconnaissance que vivent les élèves dans l'école par l'échec scolaire et en dehors de l'école et qu'ils retraduisent à l'école sous l'angle de la mauvaise reconnaissance, misrecognition, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent être, éventuellement de leur religion, mais aussi plus largement du fait d'être fils, enfant d'immigrés, enfant d'outsiders, comme je disais tout à l'heure, d'une façon plus générale. On a à ce titre-là quelques études intéressantes, une qui est parue trop tard pour que je puisse solliciter son auteur pour faire un chapitre dans le livre, c'est par une étude de Laurent Lardeux, lui-même de l'INJEP, comme Aude Kerivel, et qui fait un chapitre dans un autre livre, un chapitre sur l'exaspération des lycéens qu'ils rencontrent en milieu populaire et qui sont des lycéens racialisés, ethnicisés, et l'exaspération d'être regroupés dans des lycées qu'ils considèrent comme des lycées poubelles, des lycées de mauvaise réputation. Et dans le livre moi-même, j'utilise une étude qui a été faite, dirigée par des Allemands, Werner Schiffauer et toute une équipe, et qui traite de la façon dont les élèves issus des flux migratoires turcs, donc des élèves d'origine turque, vivent leur scolarité dans 4 pays différents, dont la France. Et ces 4 pays, c'est l'Angleterre, l'Allemagne et les Pays-Bas, plus la France. Et il se trouve que c'est en France que les élèves turcs ont le plus envie de dire aux chercheurs qu'ils sont méprisés, que les enseignants les discriminent, etc. Ils se plaignent le plus en relation avec leur identité. Et les chercheurs allemands mettent cela en relation avec justement la privation de reconnaissance qu'ils subissent du fait de l'idéologie républicaine de l'école, qui fait que les enseignants sont très mal à l'aise pour laisser les élèves parler d'eux-mêmes, et d'ailleurs n'ont que très peu d'espace dans l'organisation de l'établissement, la vie scolaire n'étant pas leur problème, étant régie par d'autres. Donc très peu d'espace, très peu l'occasion de traiter cette dimension-là des élèves auxquels ils ont affaire. Et les élèves, du coup, se sentent à la fois brimés et frustrés. Est-ce que j'ai bien répondu ?
Oui, tout à fait. Et je me suis fait une remarque, j'ai l'impression que dans la grande majorité des chapitres qui évoquent le cas français, notamment les vôtres, mais aussi les contributions de Géraldine Bozek ou encore d'Aude Kerivel, le cas français, il est en priorité évoqué à travers l'angle religieux. Alors, est-ce que en France, par rapport à d'autres contextes nationaux, est-ce qu'il y a une spécificité, une survalorisation de la variable religion dans la construction de l'altérité, selon vous ?
C'est très mal étudié, en fait. On n'en sait vraiment rien. Le chapitre de Aude Kerivel, il y a été rajouté dans le livre. Il n'était pas au départ prévu, mais il a été rajouté après les attentats de 2015, quand on s'est rendu compte que justement, l'espace public bruissait de mise en cause de l'islam et de l'identité musulmane des jeunes, et que les jeunes musulmans, à cause de l'islam, refusaient de faire la minute de silence, etc. On a argué on a renforcé la mise en cause de l'obscurantisme prêté à l'islam à ce moment-là. Et l'incompatibilité supposée de l'islam avec les valeurs républicaines, avec la liberté d'expression, etc. Donc nous, en particulier moi puisque j'avais la responsabilité de ce livre, qu'il fallait absolument un chapitre permettre au lecteur de revenir contre cette essentialisation de l'islam comme un facteur explicatif. Mais je ne sais pas, par ailleurs, je ne peux pas répondre davantage. Alors, évidemment, l'assassinat de Samuel Paty a relancé ce type d'allégations, mais c'est difficile pour moi d'en dire davantage.
Et pour faire une petite remarque, vous écrivez page 23 que, je cite, « En contexte de neutralité, la diversité ne va pas de soi ». Et c'est un argument qui est également présent dans la contribution de José Luis Wolf, qui met en avant le fait que les enseignants belges, comme les enseignants français, sont face à des injonctions contradictoires. C'est-à-dire à la fois valoriser la diversité au sein de leur classe et à la fois respecter une certaine neutralité. Mais bon, si on met de côté le cas de la relative neutralité vestimentaire qu'on impose aux élèves depuis la loi de 2004, là c'est totalement autre chose, mais si on considère la neutralité qu'on impose aux agents publics, ça ne me semble pas forcément synonyme d'indifférence à la diversité. L'objectif, il semble plutôt être de tendre vers une posture d'abstention qui évite une hiérarchisation implicite. Dans la manière dont s'est construite la laïcité française, par exemple, vous expliquez que la neutralité des agents de l'État, c'est un moyen qu'on s'est donné pour justement tendre vers une finalité qui est celle de l'égalité de traitement de tous les individus, indépendamment de leur affiliation religieuse. Et si un agent de l'État n'affiche pas sa religion dans le cadre de ses fonctions, c'est parce qu'il représente l'État et donc l'État ne doit pas marquer de préférence pour une religion ou une autre. Il les connaît toutes, mais il ne se reconnaît pas dans l'une d'elles. Donc, selon moi, en pratique, ça se discuterait, mais la neutralité, elle est bien là au service de la possibilité pour les individus de vivre leur diversité sans pression de la part de la puissance publique ou de ceux qui l'incarnent. Et je ne vois pas cette incompatibilité entre faire la place à la diversité et même valoriser la diversité et rester neutre dans le cadre de ses fonctions quand on est représentant de l'État.
Absolument. Alors là, vous posez une question normative et dans le livre, il y a deux parties sur trois qui traitent de ces questions normatives. La première partie qui présente les encadrements normatifs des quatre pays ou des quatre entités sur cette question du traitement de la diversité. Puis la troisième partie et dernière qui traite des conditions de la formation des enseignants. Comme le temps passe, je vais être plus rapide que je l'aurais voulu, qu'il ne le faudrait. Je dirais que sur les quatre entités, pays dont nous parlons, seule la France a ce problème. Dans les trois autres, en fait, il n'y a pas de contradiction entre la neutralité requise des agents publics au sens d'impartialité, au sens de traitement équitable de tout le monde, des familles et des élèves, et le respect de la diversité culturelle, et ce, selon des modalités différentes entre le Québec et la Suisse et la Belgique, je ne développe pas. En France, et je ne vais pas non plus développer, mais on est passé depuis les années 80, donc depuis 35 ans, par différentes phases, aussi bien au plan général que dans l'école, ce qui fait qu'on ne peut pas dire du tout qu'il y a un modèle français de gestion de la diversité, parce qu'on en voit au moins trois quand on regarde rétrospectivement ce qui s'est passé. Il y a eu une phase libérale. On l'a oublié, mais il fut un temps où il était autorisé de porter des foulards dans l'école, des signes de sa religion, et ça a quand même été le cas pendant 15 ans, entre 89 et 2004. Ben, on l'a oublié. Et puis, il y a eu la nouvelle laïcité, puis maintenant, et j'insisterai plus là-dessus, maintenant, une sorte de stabilisation doctrinale autour d'un cocktail de principes qui est intégration entendue comme inclusion antidiscriminatoire, donc la lutte contre les discriminations fait partie de la doctrine française actuellement, et une laïcité entendue au sens de vivre ensemble, c'est-à-dire qu'il y a une certaine convergence quand même maintenant entre nos quatre pays sur cette idée dont vous parliez, Vanéide, d'une conciliation, et même au contraire, non, même plus que conciliation, une articulation entre le principe d'équité et de traitement équitable de tout le monde et le principe de respect. Je citerai juste un des articles de la loi de 2013 qui est tout à fait remarquable de ce point de vue-là, article 41. L'école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que de la laïcité. Donc la laïcité couvre cet accord-là, cette possibilité, cette tolérance à l'expression des origines et des différences et à le fait que l'on apprend à vivre ensemble avec cette pluralité. Donc, en fait, on a eu une évolution de la doctrine française plutôt dans le sens d'une convergence avec les autres pays et dans le sens d'un apaisement hein, des conflits autour de cela. Mais comme on le sait bien et comme on le voit avec l'actualité, il y a énormément de débats et de mauvaises compréhensions autour de ces questions.
Ce qui est intéressant, c'est que cette doctrine scolaire, finalement, elle apparaît presque plus ouverte à la diversité que l'est le discours politique. Enfin, pas presque, elle apparaît carrément plus ouverte à la diversité.
Surtout aujourd'hui, on n'a jamais vu un discours politique aussi incisif dans la dénonciation de la pluralité et dans le rejet de la pluralité constitutive de la société. On arrive là à quelque chose qu'on n'avait jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale.
De la même manière, il me semble que les pratiques des acteurs souvent s'éloignent de ce discours politique assez fermé à la diversité pour aller vers quelque chose qui tire vers quelque chose de plus pragmatique et vers une éthique de la responsabilité. Bon, voilà. Et vous revenez en conclusion sur la double absence qu'évoque Abdelmayek Sayad dans ses travaux, qui met en avant, pour le dire rapidement, le fait que les immigrés et leurs descendants sont considérés comme étrangers à la fois dans leur pays d'origine et dans leur pays d'arrivée, où ils sont confrontés à une sorte de déni de nationalité. Et vous dites qu'on est passé d'une double absence à une double présence. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous entendez par là ? Et ce en quoi ça peut rentrer en tension avec le nationalisme des enseignants.
Oui, effectivement, cette dimension de la double présence qui on peut appeler aussi l'existence diasporique des immigrés, qui est facilitée maintenant en temps normal, en dehors de la période sanitaire que nous connaissons. En temps normal, il y a une grande facilité des déplacements et donc une grande facilité aussi de l'entretien des liens avec la famille restée au pays d'origine, ce qui fait que la bilatéralité des appartenances, la bilatéralité des références, c'est quelque chose de tout à fait ordinaire maintenant dans la vie de nos élèves issus de l'immigration. Et c'est quelque chose qui fait effectivement, qui est en tension avec une sorte de ce que Géraldine Bozek appelle le nationalisme cognitif des enseignants, qui, dans leur vie professionnelle, et ce n'est pas forcément le cas dans leur vie privée, mais dans leur vie professionnelle, adhèrent à une sorte de cadrage hexagonal des identités, comme si la normalité, c'était le monolinguisme et la géographie de l'hexagone. Et les attaches transnationales des élèves, effectivement, apparemment, peuvent leur paraître gênantes, incongrues, contrariantes pour leur travail. Enfin, Géraldine Bozek, dans sa thèse, a recueilli des déclarations comme ça, des jugements des enseignants. Elle travaillait sur des cas d'enseignement du primaire, hein, répartis dans toute la France et dans diverses situations sociales. Elle montre bien cette présence d'un nationalisme cognitif très fort et pas pensé, hein, pas conscientisé chez les enseignants. Évidemment, ça se combine très bien avec l'idéologie républicaine, je ne parle pas de la doctrine là, mais de l'idéologie qui se circule dans les différentes sphères médiatiques et politiques, selon laquelle la formation d'enfants d'immigrés, ça consiste à les arracher en fait à leur culture familiale, à leur détermination familiale, comme si la liberté ne pouvait être conquise pour eux que par l'arrachement culturel. Et là aussi, c'est quelque chose de non conscientisé, mais qui est très très présent. Alors, toute une partie du livre sur laquelle on n'aura pas, je crains, le temps de revenir, je m'excuse pour les collègues dont je n'ai pas pu valoriser les travaux, toute une partie du livre porte justement sur des façons de faire en formation pour que les futurs enseignants et les enseignants en poste qui prennent de la formation continue puissent sortir de ces impasses, puissent se rendre compte de ce qu'ils font, des valeurs qu'ils véhiculent et qu'ils puissent, disons, travailler de façon plus aisée avec les enfants et les jeunes en question.
Merci. Ce qui m'a particulièrement intéressée à la lecture, c'est que cette pluralité de contributions rassemblées dans un même ouvrage, ça participe, selon moi, à nuancer une opposition qu'on fait souvent entre expliquer les inégalités dont sont victimes les groupes minorisés au sein de l'école par ce qu'on appelle la discontinuité culturelle, à savoir le fait que certaines particularités culturelles éloigneraient des catégories de public scolaire, des attentes scolaires, et l'explication par la discrimination systémique ou institutionnelle, à savoir que ce sont les modalités de fonctionnement du système scolaire qui créent ces inégalités de traitement. Et dans l'introduction, vous revenez sur cette opposition et vous semblez plutôt trancher en faveur d'une insistance sur la discrimination institutionnelle, qui peut se comprendre parce que c'est en fait ce sur quoi on a peut-être le plus de prise. Mais quand on referme le livre, on se dit bel et bien qu'il y a en fait une très complexe conjonction des deux. Le facteur discontinuité culturelle, il ne me semble pas à négliger si, comme vous l'avez dit, on reste sur le fait de considérer la culture non pas de façon réifiée, mais en l'envisageant comme un ensemble de codes qu'on fait propre à un moment donné et qu'on mobilise de façon différenciée en fonction du contexte d'interaction. Et si on s'entend sur cette acception de la culture, ce facteur discontinuité culturelle, il me semble qu'il doit être assumé si on veut donner les moyens de penser à la construction du collectif en assumant la pluralité, enfin le caractère vraiment pluriel des sociétés. Et effectivement, il y a plusieurs chapitres qui donnent à voir ça, notamment celui de Pierre Pierret qui évoque ce différent entre les acteurs scolaires et les familles populaires. Et qui revient dans un chapitre sur la raison scolaire des familles immigrées entre engagement et distanciation. Et dans ma thèse, je m'intéresse à un dispositif de signalement de ce qu'on appelle les atteintes à la laïcité dans l'éducation nationale. Et on voit que sans qu'il y ait forcément de situations qui contreviennent au principe de laïcité, ce dispositif de signalement des atteintes, il va être investi par des acteurs scolaires pour faire part d'un malaise vis-à-vis d'élèves dont ils ne partagent pas toujours les codes culturels. Il va être en fait investi pour dénoncer la gêne occasionnée par ce décalage de référent culturel. Et d'autre part, la seconde explication qui est mise en avant dans le livre, c'est celle de la discrimination systémique et assumer la diversité, vous écrivez, ça mène à une approche critique des fonctionnements scolaires. Il y a des mécanismes, des fonctionnements de l'école, des dispositifs qui aboutissent à de la discrimination qu'on peut qualifier de systémique parce qu'elle est due au fonctionnement du système. Et en même temps, on voit que c'est très dépendant de la manière dont chaque acteur va se réapproprier les prescriptions. Voilà, donc je trouve vraiment que le livre montre bien que ces deux explications se conjuguent, qu'elles s'alimentent mutuellement et surtout qu'elles sont à décrire finement et avec nuance, avec beaucoup de minutie. Et je trouve que l'ouvrage relève bien ce défi. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir un petit peu avant qu'on prend directement les questions.
Je voudrais juste dire deux mots parce que je ne veux pas prendre toute la place du débat ou de la discussion qu'on peut au moins amorcer, mais je voudrais juste souligner à quel point c'est important d'avoir un concept affiné de la culture et surtout pas un concept unitariste de la culture. La culture en tant que telle, c'est un résumé d'énormément de dispositions, de façons de faire, de façons d'être qui sont variables selon les incitations situationnelles, selon les enjeux interactionnels, etc. Enfin, c'est extrêmement compliqué de parler au sens substantif de culture. Et donc, du coup, aussi de parler de discontinuité culturelle. Et dans les éléments que vous avez utilisés comme exemple, Vanille, il entre de la position statutaire, par exemple le différent qu'étudie Pierre Pierret par rapport aux parents et l'école, c'est une question de position statutaire des parents, bien plus que de détermination culturelle des parents par rapport à l'école. Et de la même façon, à propos des élèves, lorsqu'ils protestent, c'est beaucoup plus des questions de misrecognition et d'attribution culturelle de la part des enseignants que de détermination culturelle de la part des jeunes en question. Donc, méfions-nous de tout ce qu'il y a, de toutes les façons d'utiliser le mot culture. En fait, ne l'utilisons pas, c'est le mieux. Oublions culturel et parlons plus finement des choses dont il s'agit, parce que lorsqu'on utilise un mot comme culture, on a toujours à l'horizon qui se prépare à intervenir une espèce de vision de la culture comme facteur explicatif. Et ça n'est jamais ça en sciences sociales. La culture, ça n'explique rien. Il faut regarder de plus près ce qui se passe. On ne peut rien expliquer par la culture, en tout cas en sciences sociales. Même en anthropologie, c'est pareil. Hein. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire. On ne peut pas trop discuter plus à fond parce qu'on n'a plus le temps, mais je pense que c'est très important d'éviter de se piéger là-dedans.
Oui, bonjour. Michel Molinier. Une petite question dans le chat. Donc, je suis enseignant-chercheur à Sorbonne Nouvelle, anciennement Paris 3, qu'on appelle désormais Sorbonne Nouvelle. Voilà, et je serais intéressée par un petit développement. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure nous avons, mais un tout petit développement.
C'est la panne aussi. On a été retardé par la panne.
Oui, donc on essaie de rattraper la panne. Voilà. Voilà. Merci en tout cas pour ce très très bel exposé qui donne véritablement envie d'acheter le livre. Merci, c'est fascinant. Donc, est-ce que vous pourriez juste développer le dernier aspect là, de votre propos sur la formation des enseignants? J'imagine que le terrain d'études, ce sont les INSPE pour la France. Moi, je suis en didactique du français langue étrangère et seconde à Paris 3. Une autre approche de ces choses-là. Enfin, on essaie de... Bref, voilà, donc voilà, juste une demande de développement. Merci beaucoup.
Alors, dans le livre, il y a deux chapitres sur la question des langues. L'un qui travaille sur l'idéologie monolinguiste, et c'est écrit par Nathalie Auger, et de Montpellier, prof. On a un joli chapitre, je trouve, de Monique Ekman, qui est prof en Suisse, à la Haute École Pédagogique du canton de Vaud, et qui travaille sur les incidents racistes et sur la façon dont on peut amener les stagiaires, les masterants, quel que soit le niveau auquel on intervient, et les gens en formation continue également, à relater des incidents racistes dont ils auraient entendu parler, dont ils auraient été témoins, etc., et à les analyser en démontant l'investissement émotionnel qu'il y a là-dedans dans la prise de position et essayer de mieux comprendre donc ce qui est en cause. Ce n'est qu'un exemple, il y a un autre chapitre écrit également par une équipe suisse dirigée par Margarita Sanchez-Massas, qui est également une professeure de psychologie sociale à la faculté de Genève, sciences de l'éducation, et qui montre les travaux qu'elle fait elle-même dans ce sens-là. Voilà, il y a aussi des chapitres qui portent sur l'importance du travail collectif, dans le cadre des INSPE ou bien en dehors. Et là, c'est une équipe québécoise, par exemple, qui montre comment ils se sont donner un cadre de travail interuniversitaire entre professeurs d'université chargés de la formation des enseignants pour essayer d'identifier les impasses, les insuffisances et travailler dessus. Alors eux, ils ont la chance au Québec d'être en prise directe, je dirais, sur le téléphone du ministre pratiquement. Lorsque ensemble, ils se mettent d'accord sur une analyse, ils ont une grande facilité d'accéder à l'oreille du ministre et de faire une proposition qui risque de se retrouver sous forme de décision ensuite pour cadrer la formation des enseignants. Bien entendu, c'est tout le contraire qui se passe en France actuellement, où on a une rupture totale en fait entre la recherche et la décision politique. Un autre chapitre porte sur la... un chapitre, alors là, écrit par un Belge, montre l'intérêt. Ça pourrait être écrit par un Français, parce qu'on en a l'expérience en France aussi, l'intérêt d'avoir des formations d'établissement sur ces questions. Ce sont des questions systémiques, en fait, qui englobent une multitude de dimensions, et il faut, disons, finement, à l'échelle locale, identifier ces dimensions pour voir la marge d'action qu'on a dessus. On a un bon chapitre en histoire aussi, qui montre la complexité et l'intérêt du travail sur l'histoire, et le fait que, et là, c'est un chapitre écrit par une professeure d'université française, qui montre que, effectivement, l'histoire est la discipline en France dans laquelle les inspecteurs généraux et la décision politique qui a suivi a pris en charge la pluralité de la société en décrétant qu'il était impossible qu'un jeune issu de l'immigration ait à se farcir, pardonnez-moi l'expression, pendant 12 ans d'un enseignement d'histoire dans lequel il n'est pas sa place. Et donc, en essayant de faire en sorte qu'à tel et tel moment de l'enseignement de l'histoire, les élèves issus de l'immigration, en particulier de l'immigration post-coloniale de l'Empire français, des colonies françaises, trouvent leur place, voient quelque part des éléments qui leur permettent de comprendre à quelle histoire ils appartiennent et comment ils sont arrivés ici.
Moi, j'ai été aussi très intéressée par le mouvement conceptuel de double absence à double présence, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les textes d'Abdelmalek Sayad et puis de Zimmel.
De Zimmel, d'accord.
Oui, je trouvais vraiment intéressant. Je ne veux pas prendre la place, il y a d'autres questions, mais c'est vraiment une évolution que je... L'un des aspects que je souhaite désormais creuser, effectivement. Et où l'enseignement à distance joue un rôle également très important aujourd'hui.
Ah ben oui, bien sûr.
S'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. François, je ne sais pas si vous voulez dire un mot de conclusion ou ajouter quelque chose.
Oui, tout à fait. Je veux vous remercier, Vanille, pour le travail que vous avez fourni de lire et de décortiquer ce livre qui est quand même un peu épais et qui prend du temps à lire. Et je vous remercie de m'avoir permis comme ça de le présenter en détail par des questions extrêmement bien construites et diverses qui auraient permis, si on avait eu plus de temps en fait, de rendre justice à tout le monde, à tous les auteurs de ce livre, donc qui sont nombreux et qui sont que je remercie aussi de leur contribution.
Merci à vous, Françoise. Du coup, on va clore cette séance de Livre et MAM. Et je vous rappelle le titre de l'ouvrage collectif dirigé par Françoise Lorcerie, Éducation et diversité, les fondamentaux de l'action. Il est paru aux Presses universitaires de Rennes. Je vous rappelle également que vous pourrez visionner l'enregistrement vidéo de ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'IREMAM. Et il me reste à mentionner que le prochain rendez-vous l'IREMAM, il aura lieu le mardi 18 mai à 14h. Et on accueillera Philippe Bourmeau, Noric Neveu et Chantal Verdeuil pour évoquer leur ouvrage « Experts et expertise dans les mandats de la Société des Nations » qui est paru aux Presses de l'INALCO en 2020. Merci beaucoup encore François de Lorcerie pour votre participation et merci aux auditeurs. On vous donne rendez-vous le 18 mai pour une prochaine séance. Au revoir tout le monde.
Au revoir.